France Inter.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Quelle rivière, réputée pour ses coteaux et son vignoble, rejoint la Loire ici, à Chalonnes, dans le département du Maine-et-Loire, donc en Anjou. Cette rivière connue, bien connue, c'est le Layon. Chalonnes-sur-Loire, à 25 km au sud-ouest d'Angers, une commune qui nous accueille toute cette semaine, 6600 habitants, vous l'avez compris, commune fortement viticole avec l'existence de 11 domaines sur un territoire qui bénéficie de l'appellation Coteau du Layon et Coteau de la Loire. On trouve aussi l'appellation Anjou Blanc, Rouge, Rosé de Loire, Village, Cabernet d'Anjou et Crémant de Loire. Tous ces vins sont fameux, mais certains plus que d'autres. Donc le Coteau du Layon, c'est un vin blanc moelleux venant du vignoble sur les coteaux qui bordent cet affluent de la Loire dont nous avons parlé il y a quelques secondes. Le Layon qui rejoint donc le fleuve sur le territoire de Chalonnes après un cours de pratiquement 90 km. L'histoire de Chalonnes est liée donc à la viticulture et l'actualité aussi, toujours évidemment, activité économique très importante, mais l'histoire de la ville est aussi celle du fleuve et celle de l'histoire du commerce sur le fleuve et notamment des bateaux qui transportaient justement les tonneaux. On aura l'occasion au cours de la semaine, au fil de la semaine justement, d'évoquer cette histoire de Chalonnes, une commune qui nous accueille, qui vous accueille en Anjou pour le jeu des 1000 euros sur France Inter. Et le premier duo de ce mois d'avril, c'est Émilie Viau et Paul Véral. Émilie, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler de Chalonnes-sur-Loire puisque vous habitez la commune.
Qu'en dire Il fait bon vivre à Chalonnes, c'est bien agréable, il se passe toujours plein de choses.
Vous habitez le bourg, je veux dire le centre même de Chalonnes ?
Oui, j'habite sur les quais, donc j'ai la chance de voir la Loire de la fenêtre de ma chambre.
Ah, pas mal, ouais. Il y a pas mal d'eau en ce moment, c'est vrai, oui. Cette année quand même, il a beaucoup plu. Et tant mieux, hein, on peut le dire, parce qu'il y avait eu des années précédentes assez difficiles de ce point de vue-là. Vous travaillez à La Pommeraye, c'est pas loin ?
Non, c'est à 10 km, je travaille au centre social Valmauges.
Et alors, j'apprends que vous avez repris des études, Émilie.
Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis lancée dans le défi d'un master à la fac d'Angers.
Ça vous laisse un peu de temps pour les activités personnelles. Quelles sont-elles, justement, ces activités, Émilie?
Elles sont un peu réduites cette année, mais je suis toujours dans une association qui s'appelle Rumble et qui organise des événements musicaux, notamment la fête des quais avec la mairie.
C'est vrai.
Au mois d'août.
Au mois d'août, la fête des quais est très importante. On en parlera aussi au cours de la semaine sur les bords de Loire. Il paraît que c'est absolument formidable.
Exactement.
Ça attire un monde fou et c'est extrêmement joyeux et festif. Émilie avec Paul Véral. Bonjour Paul.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez Nantes et vous êtes venu ici pour le jeu?
Exactement. J'habite Nantes et je vois aussi la Loire depuis chez moi puisque j'habite sur les quais.
Et oui. C'est parfait. Donc vous êtes en aval. Et par rapport à ici, évidemment, on est dans la région Pays de la Loire d'ailleurs.
Exactement.
C'est le cas de le dire. Vous êtes responsable commercial dans quel type d'entreprise, Paul ?
Alors, je travaille pour une entreprise qui fait des boissons bio qui s'appelle Le Coq Toqué. Voilà, on fait une gamme de jus de fruits, de cidre et de pétillant de pommes qu'on commercialise partout en France.
Voilà, une petite pub gratuite au passage.
Exactement.
Vous avez eu raison d'en profiter. Vous êtes coureur à pied, Paul. Vous faites des trails.
Oui, exactement. J'aime bien me défouler le week-end dans la nature en allant courir dans la forêt ou sur les sentiers côtiers de Bretagne. Voilà.
Et parfois des voyages ?
Des voyages, oui. Récemment, la Californie, qu'on a traversée avec ma femme et ma fille en van pendant 2 semaines.
Voilà. Ah ouais, ouais, ça c'est vraiment l'image qu'on se fait de ce genre de voyage aux États-Unis. Vous l'avez fait, vous l'avez
exactement,
réalisé
ouais.
En van.
Très bon souvenir.
Nous sommes réunis sur France Inter pour jouer. Première question bleue de Rémi Bertelin à La Rochelle. Quel est ce style de théâtre ? Ah, j'ai déjà entendu un ding, mais je n'ai pas encore posé la question, monsieur Payet. Quel est ce style de théâtre ? Point. Voilà. Quelques éléments quand même. Quel est ce style de théâtre dans lequel est évoquée la condition humaine échappant à toute logique, apparue dans les années 1950 et représentée notamment par Ionesco et Samuel Beckett ?
Le théâtre de l'absurde ?
C'est le théâtre de l'absurde, ce style théâtral. Pas de continuité dans les actions ou absence d'histoire. Le style de théâtre appelé le théâtre de l'absurde. Question bleue aussi de la famille Bertrand Genet à Saint-Sauveur dans les Deux-Sèvres. Quel est ce titre d'un recueil de poèmes de Charles Baudelaire ? C'est un anglicisme qui désigne une mélancolie profonde amenant un certain dégoût de la vie. Donc quel est ce terme qui est aussi le titre d'un recueil de Baudelaire ?
Je dirais le spleen.
C'est le spleen, le spleen. On parle de spleen baudelairien en anglais, ça veut dire humeur noire, grosso modo, état affectif de mélancolie, le spleen, mal de vivre si on veut. Question bleue, la troisième du jour, de la part de Patrick Perrault à Aigli, dans le département de l'Essonne, question postée sur franceinter.fr. Quel nom est donné à la caissette en bois, fermée d'un couvercle, dans laquelle on transporte les huîtres ? Oui ?
Je dirais la bourriche.
C'est la bourriche. Émilie, vous sembliez chercher le nom de ce type de caissette, oui ?
Oui, un petit doute, mais c'est vrai que ça me paraît évident maintenant.
Maintenant, c'est évident, absolument. C'est la bourriche. Bourriche d'huître. Question blanche, de Jean-Paul Corlin à Fontaine, département de l'Isère. Quelle expression familière présentait la Première Guerre mondiale comme étant, supposément, la dernière guerre de l'humanité et largement utilisée par les anciens combattants entre les deux guerres. Donc cette expression a désigné la Première Guerre mondiale. On espérait que ce n'était pas... En effet, il n'y en aurait pas d'autres, disons. Voilà, je ne voulais pas donner un élément qui vous aurait donné carrément la réponse. Et donc, cette expression a largement été utilisée par les anciens combattants entre les deux guerres. Quelle est cette expression ?
Nous dirions...
La der des der.
La der des der, c'est ce qui était dit à l'époque. Et c'est ce qu'on espérait. Question blanche aussi. D'Eliane Oquet, à Marpan, dans le Nord. De quel pays le baht, B-A-H-T, est-il l'unité monétaire ? Le baht.
La Thaïlande.
Sans hésiter, la Thaïlande. Juste quelques secondes de réflexion pour se mettre d'accord. Émilie et Paul, le baht, c'est la monnaie de la Thaïlande. Et déjà la question rouge de la part d'Isabelle Segala à Spézet dans le Finistère. Sur un bateau à voile, il y a ici sur la Loire des bateaux à voile, et notamment ici un gabarot qui est un bateau traditionnel. Qui a été reconstruit par une association. Voilà, ce sera le thème de l'introduction d'une des émissions de cette semaine. Mais donc, sur un bateau à voile, de façon générale, comment nomme-t-on les câbles métalliques qui permettent de tenir le mât ? Vous naviguez un peu, non ? Ça vous arrive ?
À moteur.
Ah oui, mais à moteur. Et vous, Émilie, est-ce que vous êtes déjà montée sur le gabarot ici, d'ailleurs ?
Non, je suis montée sur des tout à la Poissonnière.
Ah
mais
oui, les tout, oui.
Pas
oui.
Beaucoup de voiles.
Le gréement.
Alors, ça fait partie du gréement, mais alors vraiment le nom des câbles métalliques.
Le hauban.
Le hauban, les câbles métalliques qui tiennent le mât. Les haubans. Pour quelqu'un qui n'a pas navigué, félicitations Émilie Vio, Paul Véral. Vous avez répondu sans faute à toutes les questions. Vous pouvez directement tenter le... Dans cette halle des mariniers, public nombreux, chaleureux pour vous encourager à tenter le banco, mais c'est vous qui décidez, vous le savez.
Banco.
Le jeu des numéros... Nicolas Stoufflet.
Je vois que c'est une question qui nous a été envoyée par voie postale. Vous pouvez nous écrire aussi. Il y a évidemment toutes les possibilités qui s'offrent à vous et en particulier la possibilité de nous envoyer des questions par les pages en ligne du jeu des 1000 euros. Mais l'adresse postale n'a pas changé. C'est toujours le jeu des 1000 euros, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, Sedex 16. La maison de la radio qui est sur les quais de Seine. Et ici, on est dans la halle des mariniers, quasiment sur les quais de la Loire, à Chalonne-sur-Loire. Et je vous pose cette question au nom d'Hubert Loffenburger de Kunheim, dans le Haut-Rhin. Question à propos d'un architecte français, architecte et designer, dont il faut trouver le nom. Né en 1948, il a réalisé des aménagements de bâtiments publics français, Assemblée nationale, le réaménagement du musée du Chiado à Lisbonne et de quartier de Lisbonne. Il est aussi à l'origine du concept d'architecture intérieure des villes. On lui doit aussi les chaises bleues de la promenade des Anglais à Nice ou l'église orthodoxe russe à Paris, dont on parle et dont on a parlé beaucoup ces derniers temps. Quel est le nom de cet architecte français ?
On va tenter un truc.
C'est vrai, tenter un truc. Je sens que vous êtes à peu près d'accord sur un nom commun, enfin un nom qui sera le fruit, une réponse qui sera le fruit de votre accord. Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas Jean Nouvel.
Oui, bah.
Parce que en général, quand il y a une question sur un architecte, on répond tout de suite Jean Nouvel. Non, il y en a beaucoup d'autres. Ce qui n'enlève rien au talent de Jean Nouvel et de ses équipes, mais ce n'est pas lui, en l'occurrence.
Nous dirions Villemotte.
Prénom ?
Jean-Michel Villemotte.
Jean-Michel Villemotte ! Vous avez gagné le banco grâce à cette bonne réponse à cette question architecture. 500 euros maintenant ou peut-être 1000 avec le...
Franchement, c'est super bien. Super, super, super.
On dit super.
Vous dites super ? Génial ! Question à 1000 euros. Question de Léo Cortès, de Dax, dans les Landes, naturellement. Dans quel roman américain trouve-t-on les personnages de Meg, Joe, Beth et Amy ?
Autant de personnages féminins.
Dans quel roman américain trouve-t-on les personnages de Meg, Joe, Beth et Amy ?
J'aurais dû 4 filles de Victor Mort.
Ah ouais ?
Ouais.
C'est que des prénoms féminins. Ouais. Beth ?
Bah si, il y a Joe, en tout cas, je suis sûre. Oui. Si, Beth, ouais.
C'est pour toi. Bon. Moi, j'ai
fait. Ok. Vous discutez
okay,
bien.
On va tenter.
Ouais. Après avoir bien discuté entre vous, Émilie et Paul, c'est sûr. Est-ce que vous êtes tombés sur la bonne réponse ? Est-ce que vous avez la bonne réponse ?
On dirait les 4 filles du docteur March.
Les 4 filles du docteur March, c'est la bonne réponse à cette question. Ce roman de 1868 de Louisa May Alcott, dont l'histoire se déroule pendant la guerre de sécession, un père pasteur aumônier dans le conflit, dans cette guerre de succession, et ses filles doivent faire face aux difficultés de la vie. Les 4 filles du docteur March, bravo, super banco gagné par Émilie et Paul. Autre cadeau, et ce sera le cas toute cette semaine, comme la semaine dernière d'ailleurs, Olympics, l'étonnante histoire des Jeux d'Orit Kolodny, illustrée par Orit Kolodny, qui est elle-même ancienne athlète de haut niveau et maintenant illustratrice. Coédition Les Arènes, France Inter. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.